bout du jour sur la première.
Eddie Kakelberg.
Vous avez enfilé vos gilets jaunes ou vous les détestez. Quoi qu'il en soit, ils sont le signal d'une crise sociale qui vient se superposer aux autres crises que traverse notre système capitaliste ou ultralibéral. C'est ce que va développer en tout cas notre invité ce soir au bout du jour, Bruno Kollmann, chief économiste chez De Groof Petercam. Il a une lecture des crises successives liées entre elles depuis 2008 et aussi du peu de réponses et de perceptions exactes que l'on a du phénomène. Nous continuerons d'ailleurs à plonger au cœur des gilets jaunes en fin d'édition avec un reportage signé Alexandre Bédoc, réalisé ce samedi au cœur même du mouvement qui va en s'amplifiant.
La première, 19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kakelberg.
Là où Emmanuel Macron a tort, c'est qu'il n'a pas compris qui il avait en face de lui. Ceux qu'il a en face de lui sont les gens de l'effort quotidien. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas des tirs au flanc. Ce ne sont pas des casseurs, mais la colère les amène à casser. Ce ne sont pas des tirs au flanc et des feignants. Ce sont des travailleurs pauvres et exténués ou des retraités qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus payer leur loyer, leur machin. Mais ce ne sont pas des glandeurs. Et chaque fois, cette erreur d'analyse vis-à-vis de la population à qui il parle provoque un recrudescence de soutien, de colère, d'aigreur, d'enracinement dans la colère.
Bonsoir Bruno Kollmann.
Bonsoir.
Vous nous dites, on va y revenir en long et en large, hein, mais qu'il y a trois fragmentations dans la bombe qui nous explosent là à la figure pour l'instant. La crise, on va dire la crise qui nous frappe depuis 2008, puis la crise des dettes souveraines des États qui nous a frappés et qu'on n'a pas compris, et la crise sociale dite des gilets jaunes pour faire court à l'heure actuelle qu'on ne comprendrait pas non plus. Vous les liez, vous êtes un adepte de la tectonique des plaques, il y a forcément un lien entre les uns et les autres ?
Oui, tout d'abord, je crois que le point de départ, c'est la crise de 2008, qui était profonde et à laquelle les États-Unis et l'Europe ont donné des réponses complètement différentes. Les États-Unis ont en fait amplifié leur capitalisme, qui est maintenant mondial et digital. Ils ont repoussé les solutions à la Roosevelt des New Deal de 1933-38. Ils ont repoussé les réponses d'une économie libérale socialisante à la Tony Blair, à la Schröder. Et donc, le capitalisme américain s'est imposé. En Europe, on a au contraire dû constater la fin de l'État-providence. Et c'est ça, finalement, qui est la synthèse de ces crises. Donc, 2008 arrive. C'est une crise bancaire, somme toute de faible envergure parce que les subprimes étaient un montant assez réduit par rapport à la valeur des biens mondiaux, mais néanmoins suffisante pour mettre en péril les banques européennes. Les banques ont été sauvées par les États, qui ont dû subir un effet déflationniste. D'ailleurs, on a vu que la dette publique a augmenté dans quasiment tous les pays comme réponse à cette crise de 2008. Et ce sont ces mêmes États qui ont été mis en joue par les marchés, notamment dans le sud de l'Europe, parce que qui dit endettement public qui augmente, dit risque de crédit et donc perception d'insolvabilité par les marchés. C'était le cas, bien sûr, de la Grèce, mais aussi d'autres pays méditerranéens. Donc les États ont été les sauveurs du système bancaire, mais ont été directement mis en joue par ces mêmes marchés financiers qui avaient créé le choc bancaire. Et puis aujourd'hui, 10, 11 ans après la crise, on a un ressac qui est social et on a une crise qui prend des formes différentes selon les pays, mais qui reflète une économie qui a un faible taux de croissance. Et la réalité, c'est que le taux de croissance, en fait, est bas à l'aune de l'histoire. Si on prend le cas de la Belgique, on s'attend à un taux de croissance, si tout va bien, c'est-à-dire sans effet négatif du Brexit, sans crise de commerce international, qui n'excédera pas 1,2% en 2021, ce qui est somme toute assez faible. Donc aujourd'hui, il y a un ressac social par manque de croissance et aussi lié au vieillissement de la population.
Oui, avant d'ailleurs d'aller plus loin, on peut se dire que votre prévision est prudente parce que de guerre commerciale, il en sera probablement question avec Monsieur Trump qui déclare la guerre commerciale à peu près tout le monde, qui vient unilatéralement, sans même la prévenir, de dégrader le statut diplomatique de l'Union européenne dans le concert des nations à Washington, mais qui envisage des rétorsions contre tout qui n'abdique pas devant sa volonté, y compris son propre Parlement.
Oui, c'est correct. Et je crois que le meilleur parallèle qu'on puisse trouver, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, c'est avec Nixon, qui en 71 a mis fin aux accords monétaires qu'on qualifiait de Bretton Woods, qui a donc découplé le dollar et l'or. Ça a conduit à une décennie absolument maudite d'inflation, d'endettement public, de chocs de diverses natures. Et aujourd'hui, Trump est en train, comme l'a fait Nixon en 71, de rééquilibrer les termes de l'échange au niveau mondial, en imposant des barrières tarifaires, en rééquilibrant en partie par le cours de change les flux de commerce, au bénéfice premier et apparent des États-Unis. On verra dans un second stade si ce sera vraiment le cas, parce que le protectionnisme n'est jamais bénéficiaire qu'à court terme pour une population domestique. Mais donc, manifestement, on assiste à un bouleversement du monde qui est de nature mondialisée, puisqu'aujourd'hui, l'économie est mondialisée.
Alors, vous nous dites, cela dit, pour revenir à nos fameuses phases successives, crise bancaire, crise des États et des dettes souveraines, crise sociale actuelle, vous nous dites, on n'a pas vu, on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui, non seulement que tout ça était lié, mais que tout ça était intrinsèquement lié au système capitalistique développé sous la forme ou le nom de ultralibéralisme.
Oui, c'est très difficile de tirer la synthèse de toutes ces évolutions. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les deux pays qui, en 79 et en 80, ont déployé ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est une forme de libéralisme, sous la présidence de Reagan et sous la direction de Thatcher en Angleterre, au Royaume-Uni, sont ces deux mêmes pays qui aujourd'hui deviennent isolationnistes. Trump le démontre et Cameron a fait voter le Brexit avec les conséquences qu'on connaît. Et d'ailleurs, singulièrement, ces deux pays sont aujourd'hui en shutdown, techniquement aux États-Unis, pratiquement au Royaume-Uni, avec ce vote sur le Brexit qui doit peut-être changer les cartes du commerce international. Et en réalité, ce capitalisme nous a apporté énormément de prospérité, nous a apporté quelque part le décoincement de nos économies, a donné une bulle de croissance à l'Europe occidentale. Et aujourd'hui, sa contraction révèle certains aspects sociaux en matière d'inégalité. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OCDE qui constate que les inégalités salariales ont augmenté. D'ailleurs, elles sont très frappantes entre les hommes et les femmes et elles persistent. Et que donc, 10 ans après la crise de 2008, nous vivons sans doute la rémanence d'un choc de capitalisme. Et finalement, cette crise de 2008 était un choc capitaliste puisque ce sont les banques, c'est-à-dire les créateurs de monnaie qui ont été mises en joue. Et ce sont les États, sous leur emprunt dans les marchés financiers, qui ont aussi été mis en joue par ces mêmes marchés. Et donc, voilà, je crois que tout est lié. Alors, ce ne sont pas des corrélations absolues, ce sont plutôt des intuitions, des juxtapositions. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a, et ce n'est un secret pour personne, un malaise social auquel la plupart des pays vont devoir donner une réponse qui est plutôt dans le sens de la solidarité.
Oui, sauf que l'on va vers un maximum de dérégulation si l'on entend certains gouvernements que l'on dit hein, plutôt de droite ou de centre-droite et qui plaident, quand il s'agit de programmes pour des élections à venir, pour d'autres formes de dérégulation encore, que l'on voit des replis un peu partout au sein de l'espace européen sur le repli sur soi, hein, seul je ferai mieux, comme si Trump faisait des émules un peu partout. Et donc, on a le sentiment que personne ne veut prendre cette mesure de la solidarité, Bruno Kohlmann.
Non, c'est correct. Et je me demande, sans pouvoir apporter l'argument scientifique ou académique, si la mondialisation ne porte pas en elle-même sa propre finitude. Le pic de mondialisation du XXe siècle avait été atteint en 1913. Ce même pic n'a été atteint de nouveau qu'en 1973, 60 ans plus tard. Ça montre bien que les deux conflits mondiaux ont joué un rôle très important. Mais la mondialisation peut faire peur parce que non seulement le capital est fluide, mais le travail est en partie déterritorialisé, c'est-à-dire qu'il perd son ancrage local. Et on le voit d'ailleurs très bien dans la sphère digitale. On voit que les biens sont produits, sont échangés, plutôt par les ondes d'Internet que par la réalité du terroir. Et je peux comprendre que ça suscite une certaine inquiétude et donc un malaise social parce que des populations qui ne sont pas suffisamment mondialisées ou senties à l'écart de cette mondialisation ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie et de l'économie. Et les réponses à tout cela, c'est souvent d'avoir plus d'États ou en tout cas un État différent. Et ce qui est très particulier, c'est que ces mouvements populistes ne veulent pas abattre l'État, ils veulent remplacer l'État par un État plus fort. Et il est vrai que les États contemporains sont eux-mêmes écartelés, en tout cas, ça dépend des pays, mais pour certains pays, entre des populations qui se rendent compte que les bénéfices sociaux, comme les retraites, les soins de santé, ne seront pas à la hauteur de leurs espérances, écartelés d'autre part entre des marchés qui leur échappent. Et donc, il y a une réaction politique qui consiste à vouloir renforcer l'État dans ses attributs régaliens pour servir de protection à des forces de marché qui ont, on va dire, envenimé ou en tout cas pollué le débat. Et donc, ça prend différentes formes. Alors, certains pays veulent déréguler, d'autres pays veulent re-réguler. C'est pour ça que l'immigration prend une tournure, en tout cas un relief tout à fait différent en ces périodes de crise économique. Et donc, ça explique aussi pourquoi certains pays mettent en œuvre un repli national, isolationniste, réfutent pour certains l'euro ou l'Europe, parce qu'ils veulent donner une réponse autonome, domestique, à des problèmes maintenant qui sont d'envergure mondiale.
dans le champ du politique, beaucoup de choses sont devenues très incantatoires et ne reposent pas forcément sur des vérités avérées. On nous vante souvent, ou on nous parle beaucoup d'un modèle nordique, alors Danemark pour certains points, suédois pour d'autres. Quand on questionne, et on l'a fait récemment ici dans cette émission à travers le livre Macron le Suédois, quand on questionne la réalité, on se rend compte que la Finlande, où l'on n'a pas privatisé les transports, où l'on a très peu appliqué ces méthodes, se portent plutôt bien avec des secteurs performants, et que la Suède et le Danemark, qui sont au contraire occupés à remettre en cause depuis une décennie les modèles que l'on croit toujours être les leurs, se portent de moins en moins bien et voient des phénomènes d'extrême droite et de nationalisme poindre leur cap. Nos politiques font de l'incantatoire ?
En partie, en même temps, je crois que c'est toujours très difficile de comparer nos économies au modèle nordique qui est d'essence protestante. Et même s'il y a des changements, des va-et-vient entre des polarités un peu différentes, ce n'est pas comparable au modèle qu'on peut constater en Belgique ou en France. Je crois que ce qui est très difficile dans le domaine politique, c'est de faire comprendre à la population que nous sommes déjà dans un État qui est très présent dans l'économie. En fait, on conteste l'État, mais est-ce qu'on sait qu'en Belgique, l'État brasse déjà plus de 50% du PIB, et pas dans un objectif de capture, dans un objectif de redistribution essentiellement, que la dette publique représente en grande partie cet État-providence dont on a emprunté les bienfaits aux générations suivantes. Et ce qui est très compliqué, c'est de réconcilier avec pédagogie cette réalité d'un État qui est finalement assez bienveillant, avec des modèles économiques qui semble un peu féroce. J'en prends le cas de la Belgique, hein, parce que c'est intéressant de la comparer aux pays nordiques. Nous avons en Belgique un taux d'égalitarisme qui est un des meilleurs du monde. C'est vrai qu'il est un peu en baisse, comme dans d'autres pays, depuis la crise de 2008, mais néanmoins, il est bon, et parfois meilleur que certains pays nordiques. Donc c'est difficile à comparer, mais il est clair que cela n'escamote pas le fait qu'il y ait une perception, et légitime, je crois, et justifiée au sein de certains ménages, d'un monde qui leur échappe et d'un pouvoir d'achat qui n'est plus à même de pouvoir répondre aux besoins courants.
On entendait là, juste à l'entame de l'émission, un extrait de l'émission C'est dans l'air, où Alain Bauer, l'un des invités en plateau, spécialiste criminologue, qui évoquait les Gilets jaunes, disait très fermement que Emmanuel Macron ne comprenait rien lorsqu'il parlait des Français souvent trop fainéants. Il a multiplié, il est vrai, le président français, certaines démonstrations un peu bizarres, hein, lorsqu'il s'adresse à ce jeune chômeur en disant « il suffit de traverser la rue et je vous trouve un job immédiatement ». Il parle ici d'une certaine fainéantise endémique et Bauer dit, on vient de l'entendre, il ne comprend pas à qui il s'adresse. Les Gilets jaunes, ce sont des retraités et c'est assez rare de les voir à ce point mobilisés, mais qui n'arrivent plus à nouer les deux bouts et qui ont travaillé et estimé de flouer. Et ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas, comme il dit, des glandeurs.
Non, c'est correct d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des pauvres qui manifestent, ce sont des gens qui travaillent, qui sont dans la classe moyenne inférieure, et qui donc sont à la marge de la précarité.
Parfois, juste les gens en dessous du seuil de pauvreté. Hein,
absolument. C'est une situation qu'on connaît depuis longtemps aux États-Unis, où il faut d'habitude avoir plusieurs métiers pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il y a aussi une réalité géographique. On voit qu'aujourd'hui, l'accès aux villes devient la fracture sociale, que Jacques Chirac avait déjà évoquée il y a bien longtemps. Mais je crois que dans le système français, il y a aussi une singularité. De Gaulle, quand il a créé la Ve République, voulait un système présidentiel avec un septennat pour le président et un quinquennat pour le Parlement, puisque là-bas, c'est un système d'exécutif à double détente. C'était modifié en un quinquennat juxtaposé sous la présidence. Et donc, Macron, rentrant dans cette logique institutionnelle, a peut-être été lui-même élu avec une trame populiste. J'avais dit sur cette antenne il y a 2 ans que son élection était plutôt gaullienne que gaulliste, et je le maintiens maintenant, avec un Parlement qui lui est acquis et dont certains membres, d'ailleurs, sont fortement disqualifiés. Et en fait, on savait depuis le début que, comme il n'avait pas d'opposition au sein du Parlement, il serait face à la rue en cas de trouble, en tout cas en cas de mécontentement, c'est le cas maintenant. Et ce qui est très très particulier, c'est que quand on parle du grand débat national, alors qu'il passera bien sûr par des institutions comme les mairies en France, c'est un débat qui va dépasser le Parlement, qui est normalement le cénacle au sein duquel le débat aurait dû avoir lieu. Et ça rappelle finalement
les états généraux,
les fameux états généraux, hein, avec le clergé, la noblesse et le tiers-état de mai 1789 et Louis XVI qui essaie vaille que vaille de réconcilier, on va dire, son pouvoir avec un semblant de démocratie. Et le fameux serment du jeu de paume qui est élu un peu plus tard. Et donc, ça reflète effectivement cette extraction du débat des institutions prévues par la Ve République. Donc, la France vit peut-être une mutation du régime politique.
Si on pousse l'analogie, en restant prudent, mais quand même jusqu'au bout, alors, Bruno Coleman, on pourrait arriver à une scène bis où Emmanuel Macron, un petit matin, serait réveillé et on lui dirait « Monsieur le Président, ils ont pris la Bastille ». Et il répondrait « C'est une révolte ». Et on lui dirait « Non, c'est une révolution ».
Mais j'espère que non, parce que À titre personnel, moi je suis très méfiant par rapport à ces démocraties participatives, par rapport à ces systèmes dont on parle maintenant de tirage au sort des citoyens. Les systèmes démocratiques dans lesquels on vit maintenant n'ont pas été inventés par hasard. Les pères fondateurs de la plupart des régimes l'ont soigneusement pensé. Et je crois qu'il est dangereux de sortir le débat des cénacles qui sont prévus. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on va vers une forme innommée de pouvoir qui ne sera pas capturable par des textes et dont les modalités suivantes seront tout aussi imprécises qu'elles le sont maintenant. Moi, si j'avais été à la place de Macron, mais qui suis-je pour le dire, j'aurais absolument conservé ce débat au sein du Parlement, et j'imagine qu'il va d'une manière ou l'autre essayer de le faire. Imaginons qu'en Belgique, tout le monde comme ça puisse influencer sur le choix des élections hors des institutions représentatives. Ça conduirait à un chaos absolument total. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vote est obligatoire en Belgique.
Oui, mais puisqu'on a fait dans la tectonique des plaques, Bruno Coleman, inutile de rappeler qu'il y a eu autour de la figure de Stéphane Hessel et de son petit livre Les Indignés. Des indignés, on en avait connu chez nous. On se rappelle des auditoires pleins à craquer avec des jeunes très fortement marqués par son propos, mais aussi en France, mais on en avait vu en Espagne. On en avait vu en Italie, on en avait vu en Israël. Donc il y avait eu ces premiers mouvements-là. Il y avait d'autres mouvements, évidemment, dans la rue, avec effectivement des revendications assez similaires depuis. Donc on a eu des partis qui en sont nés, en Espagne, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ne sont pas la pointe la plus amère, déçue, avec un sentiment de trahison de ce mouvement qui vient lui aussi d'une décennie au moins ?
Oui, probablement. Ça me rappelle l'époque où je dirigeais la Bourse de Bruxelles et j'allais quasiment tous les 15 jours à New York pendant la crise. Il y avait les personnes qui avaient revendiqué le fait de occuper Wall Street. Je me souviens, ils étaient sur le bord de la petite église sur Trinity Church à côté de Wall Street. Et finalement, des mouvements sporadiques du même type ont émergé un peu partout. Ils ont été disqualifiés au motif que les États étaient intervenus pour sauver l'économie et que les taux de croissance avaient repris un peu de vigueur après 2008. Est-ce qu'ils ont été les premières secousses d'un sac social qu'on constate maintenant? Je ne sais pas. Je pense que les revendications étaient plutôt candides il y a 10 ans. Elle est peut-être maintenant plus structurelle. Et surtout, j'ai l'impression que les revendications contemporaines touchent des couches d'âge, des tranches d'âge plus élevées que les personnes qu'on a constatées dans...
C'est transgénérationnel.
Et en fait, ça ramène aussi à des problèmes macroéconomiques les plus importants de nos économies. Si nous avons un taux de croissance si faible, c'est en partie à cause du vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population demande un investissement gigantesque en matière de pension, mais crée par son existence une moindre croissance, puisqu'on sait qu'une population âgée consomme moins, investit moins et donc met en œuvre plus de prudence financière. Donc tout est dans tout. Et donc je crois que ce qu'on constate maintenant, notamment en France, c'est délocalisé non seulement géographiquement, mais aussi démographiquement.
Et sans compter que, bien sûr, les États souvent empruntent pour garantir le filet social ou être en mesure de le payer. Vous l'avez également commenté. Au bout du compte, je reprends un extrait d'un des textes que vous avez publié ces jours-ci, Bruno Coleman, vous dites « Les États sauvèrent l'économie de marché, ils en deviennent désormais les victimes ». Mais parce que peut-être que c'est l'économie de marché, en tout cas dans cette formule actuelle-ci, qui est à bout de souffle, qui n'est plus celle qui correspond à l'aspiration du plus grand nombre. Le pourcent le plus riche ne cesse de s'enrichir, mais les déclassés ne cessent de grandir.
Oui, ça pose une question sur le rôle de l'État. Et je crois que les choses ont commencé dans les années 70, quand les États se sont fortement endettés pour essayer de récupérer ce qui était un choc structurel, alors que ça avait été confondu avec un choc conjoncturel. Mais finalement, quand on s'intéresse à la doctrine d'Adam Smith, qui était le père du libéralisme, Adam Smith n'a jamais plaidé pour des États faibles, mais plutôt des États forts, capables d'empêcher les monopoles. C'est une chose d'ailleurs qui a changé depuis les années 80. Aujourd'hui, la promotion des monopoles est encouragée aux États-Unis. Et en fait, je crois que les États ne se sont pas rendus compte suffisamment qu'ils devenaient effectivement, par leur endettement, le jouet des marchés. Et on l'a vu lors de la crise grecque et d'autres crises périphériques. Et aujourd'hui, ces mêmes États, je le disais, sont donc écartelés. Il n'y a pas d'autre mot entre une partie de la population qui contestent ces mêmes États au motif que ces États ne les ont pas protégés contre les forces de marché, et ces mêmes forces de marché dans une sphère digitalisée qui en partie leur échappe. C'est la fameuse taxation des GAFA qui en est la meilleure illustration. Et donc nous rentrons dans une configuration socio-étatique qui peut être un peu fragile, un peu plus compliquée, et qui finalement devrait avoir comme objectif unique de subordonner toute décision politique et dans tous les domaines, à commencer par le climat, au bien-être des futures générations.
Oui, mais alors au bout du compte, on est presque occupé ici à donner raison aux complotistes qui disent les États en fait sont les otages eux-mêmes de quelque chose qui les dépasse, et donc nous ne sommes gouvernés que par des ombres, nous sommes dans la caverne, ces ombres en fait donnent l'illusion de gouverner, mais ce sont des groupes occultes qui gouvernent.
Non, mais moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de thèse. Je crois que, évidemment, les États sont peut-être dépendants des marchés, mais les marchés sont dépendants des États, et puis les marchés ont besoin de l'ordre social pour pouvoir se développer. Donc finalement, tout est dans tout. Moi, je ne crois pas à une sphère éloignée et occulte qui anime l'économie. Par contre, je crois que l'interaction entre les marchés et les États devient le véritable enjeu des prochaines années. C'est ce que Jacques Attali avait qualifié de dialogue il y a une dizaine d'années entre les États et les marchés. Je crois qu'il avait raison. Et finalement, c'est la nature relative de ces deux pouvoirs qui doit être négociée. Parce qu'on ne peut pas avoir une économie de marché sans État qui assure une certaine redistribution, comme on ne peut pas avoir des États qui redistribuent ce que l'économie de marché n'a pas sécrété.
Merci d'être venu nous en suggérer la réflexion au bout du jour, Bruno Coleman.